Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour un nouveau numéro de Métropolez-vous, que je vais commencer en vous souhaitant à tous, fidèles et nouveaux auditeurs de cette émission, une très bonne année 2020, pleine de bonheur petits et grands, avec une santé de fer pour pouvoir en profiter pleinement. Cela étant dit, cela étant fait, nous reprenons en ce début d'année la série d'émissions que nous avons commencé en 2019, celle consacrée à la découverte des communes de la métropole, notamment aux moins connues d'entre elles, aussi petites par la surface ou la population qu'elles soient. Après avoir exploré quelques communes de l'Est et de l'Ouest, nous allons maintenant nous tourner vers le nord du territoire métropolitain, où nous ne sommes pas encore arrêtés, et la commune nordiste à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui, c'est celle de Saint-Alban. Avec ses 426 hectares, c'est une des plus petites de Toulouse Métropole, mais c'est une des plus denses en population, avec ses plus de 6000 habitants. Elle a aussi une histoire que nous souhaitions vous faire connaître. C'est à cette tâche que nous allons nous atteler maintenant. Voici Saint-Alban à travers les âges. Et pour nous plonger dans l'histoire de Saint-Alban à travers les âges, nous avons la grande chance de recevoir aujourd'hui un Saint-Albanais qui connaît très bien le sujet. Il a même publié un livre consacré à l'histoire de Saint-Alban, ou tout du moins à une période de cette histoire. L'invité de ce numéro, c'est Serge Laborderie, à qui je souhaite aussi une très bonne année et que je remercie d'avoir accepté notre invitation. J'évoquais à l'instant le livre que vous avez fait paraître sur l'histoire de Saint-Alban. Sur quelle période porte-t-il donc et sur quels documents et témoignages vous êtes-vous appuyé pour l'écrire?
Bonjour à tous. J'ai d'abord dépouillé l'ensemble des archives qui sont encore en mairie de Saint-Alban. J'ai travaillé également avec les archives départementales de la Haute-Garonne, notamment pour les origines de Saint-Alban, même si le livre ne porte que 1789-1989. Il fallait que le livre soit prêt pour 1989 pour le jumelage de Saint-Alban. Et ensuite, je m'appuie sur pas mal de témoignages oraux également qui permettent de retrouver quelques histoires fort intéressantes sur la vie de Saint-Alban.
Y compris des histoires sans doute familiales où la petite et la grande histoire se croisent.
Souvent, voilà. En tout cas, en faisant des recherches, on trouve pourquoi la petite histoire recoupe la grande, oui.
Alors je crois que du point de vue méthodologique, si on peut dire, vous vous êtes aussi un petit peu inspiré de la façon de travailler d'un Fernand Braudel, grand nom parmi les historiens français.
Mais Fernand Braudel m'a donné la clé de lecture de l'histoire de Saint-Alban. Je vais le citer rapidement. Il dit quelque part, les villes ont autour d'elles, à leur disposition, plus ou moins grandes, une couronne de bourgs reliée par ricochet à de minuscules villages. C'est sur ces enveloppes villageoises immédiates que les villes agissent le plus aisément, même sans trop le vouloir. Elles y déterminent l'orientation des activités, servent même de refuge aux populations menacées, et c'est même l'origine du village de Saint-Alban, c'est pour l'accueil de ces populations menacées, ou pour chasser.
Voilà, Braudel est historien qui travaillait sur la longue durée. Lui.
C'est ça, oui, exactement.
Eh bien, merci pour ce petit discours de la méthode, ou plutôt pour cette présentation de la méthode avec laquelle vous avez procédé pour écrire votre histoire de Saint-Alban 1789-1989. Nous en reparlerons sans doute plus tard dans cette émission, lorsque nous aborderons cette période de l'histoire saint-albanaise. Pour l'instant, c'est le présent et l'actualité métropolitaine qui vont occuper les minutes qui suivent. Nous retrouvons tout de suite Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. Nous sommes encore dans la période des vœux et les élus ne dérogent pas à la tradition, tel Jean-Luc Moudinque, le président de Toulouse Métropole, qui a souhaité une année apaisée et pleine de projets à ses administrés toulousains et métropolitains.
Effectivement, Eric, 2019 s'achève dans un climat de fortes tensions sociales et identitaires, tant à travers le monde que dans notre pays, donc dans notre ville, dit-il. Pourtant, 2019 aura été aussi bénéfique pour une plus forte prise de conscience collective et individuelle de l'urgence climatique et de la nécessité d'y répondre avec bien plus de volontarisme. Ainsi, pour 2020, le président de Toulouse Métropole souhaite pour l'agglomération que Toulouse et sa métropole restent un îlot de prospérité où s'épanouissent initiatives innovantes et multiples talents des Toulousains, que les comportements changent pour améliorer l'environnement et où le dialogue fait grandir le territoire et que le dynamisme toulousain bénéficie à un plus grand nombre et de finir par ces mots. À chacun de vous, je souhaite une année 2020 à la fois apaisée et pleine de projets, qu'elle vous apporte avant tout la santé, l'épanouissement personnel et de nombreux moments partagés avec ceux qui comptent dans votre vie.
Et cette année a commencé avec quelques désagréments pour les usagers du métro, si bien que le lancement de la ligne de métro XXL à Toulouse est de nouveau reporté.
Il avait déjà été reporté une première fois en décembre après des anomalies constatées lors des essais techniques. Le lancement devait avoir lieu ce mercredi, mais la veille, suite à un incident technique, la ligne A du métro est restée à l'arrêt pendant plusieurs heures. Selon Tisséo, c'est un défaut d'origine électrique qui a provoqué la combustion d'un poste au niveau de la station Matabio. L'inauguration de la nouvelle infrastructure est donc reportée.
Nous allons rester dans le domaine des transports pour terminer ce flash, puisque Téléo sort de terre, Corinne.
Effectivement, fin 2020, le téléphérique Téléo enjambra la colline de Pêche-David de l'Oncopole à l'université Paul Sabatier, en passant par le CHU Rangueil. Les trois grands pôles d'activité seront desservis en 10 minutes, de 5h15 à minuit, à une fréquence de 1 minute 30 en heure de pointe. Téléo sera connecté à la ligne B du métro, au réseau de bus Tisséo et au nouveau parking relais de 500 places qui sera construit à la station Oncopole. Débuté en juillet dernier, le chantier a déjà achevé les travaux de terrassement et les fondations des trois stations. Les cinq pylônes sont en cours de construction. La technologie tricable qui a été retenue offre, elle, une stabilité au vent maximale et supporte de grandes cabines, celles du Téléo pouvant accueillir 34 passagers. Les essais démarreront en automne, en fin d'année.
Merci à Corinne Saint-Félix pour ce flash d'information métropolitaine de la semaine. Serge Borderie, peut-être une réaction ou un commentaire à ce que vous venez d'entendre.
Deux informations qui concernent les déplacements dans Toulouse, enfin dans Toulouse, dans l'agglomération toulousaine, qui sont de plus en plus compliquées, avec, j'ajouterai une mauvaise nouvelle que je viens de lire sur la presse ce matin, l'abandon, suite à la décision du Conseil d'État, du fameux BUN, boulevard urbain nord, qui aurait peut-être désenclavé le nord toulousain. Voilà, donc ça demeure le gros problème peut-être à résoudre dans l'agglomération.
Un casse-tête, oui, et qui malheureusement, je pense, va prendre encore d'autres proportions dans les années qui viennent avec l'afflux de population vers la métropole toulousaine, victime un peu de son succès. Merci beaucoup pour cette réaction, Serge Laborderie, et ce commentaire. Nous allons maintenant poursuivre cette émission avec vous en revenant au thème principal du jour, l'histoire de Saint-Alban à travers les âges.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous. Métropolez-vous, la suite avec notre invité Serge Laborderie, Saint-Albanais et auteur de Histoire de Saint-Alban 1789-1989. J'ai pour habitude de demander d'abord quelle est l'étymologie du nom de la commune et à quel moment de son histoire celle-ci le prend-elle. Là, il se trouve qu'il s'agit d'une des nombreuses communes françaises qui portent un nom de saint. Pourquoi Saint-Alban et à quel moment cette commune prend-elle ce nom?
Alors Saint-Alban ne prendra ce nom-là qu'en 1675, alors que les premiers habitants arrivent sur les lieux en 1080 lors de la création d'une sauveté qui porte le nom de Matepézoul, tulipou peut-être, étymologiquement. Sauveté dont on nous dit qu'elle était construite dans un lieu inondable, marécageux et qu'elle a été de courte durée, ce qui est fort possible. Donc une sauveté était délimitée par trois croix.
Oui, il faut préciser ce que c'est une sauveté, parce que voilà, je pense que tout le monde ne sait pas.
Ce sont trois croix qui délimitent un territoire à l'intérieur duquel toute personne pourchassée, quelles que soient les fêtes pour lesquelles elles sont pourchassées, trouve un refuge, comme son nom l'indique, sauveté, et donc ils sont sauvés. Personne ne peut venir les emprisonner ou
les
quoi que ce soit d'autre.
Oui.
Les appréhender. Donc, c'est la première origine. Et à noter que donc, c'est 1080, que ces territoires sont donnés. C'est une fondation de sauveté qui est faite au profit de l'hospice toulousain de Raymond Guérard en 1080. Or, Raymond Guérard, c'est lui qui est à l'origine de la construction de Saint-Cernin, qui débute également en 1080. Donc, ces terres qui appartenaient à l'abbaye de Saint-Cernin montrent que l'histoire de Saint-Alban et celle de Raymond Guérard et de l'abbaye de Saint-Cernin sont extrêmement liées.
Et alors donc, Saint-Alban, c'est en 1675. Pourquoi Saint-Alban?
Alors, à la demande de la famille des barons du Puget, qui sont arrivés à Saint-Alban en 1603, rachetant les terres de l'abbaye de Saint-Cernin, qui apparemment avait besoin de trouver des liquidités. Donc, c'est le neveu du premier des barons qui s'est installé qui va demander au roi de France et obtenir de Louis XIV, par lettre patente donnée à Versailles donc en 1675, que le deuxième nom, Gaffelaz, soit transformé en Saint-Alban en référence à ses aïeux provençaux, Teignier, quelque chose, j'ai pas retenu le nom du village, et qui se serait appelé Saint-Alban ou Saint-Auban. Donc voilà,
Donc, ce n'est pas tout à fait clair, hein, l'histoire de l'origine du nom de la commune.
On donne droit à une demande des barons qui ont racheté les terres.
Alors, on va remonter maintenant un peu plus loin que le Moyen-Âge. On va y revenir rapidement, bien sûr. Les premières traces de présence humaine sur ce territoire qui aujourd'hui est petit, 426 hectares, sont tout de même assez anciennes, apparemment.
Alors, elles sont peu nombreuses. On a retrouvé un galet aménagé paléolithique inférieur, type Acheuléen, qui n'a rien à faire là, donc probablement apporté par les crues de l'Erse ou de la Garonne, allez savoir. Mais bon, c'est pas un témoignage direct et intéressant. Par contre, on retrouve une pointe de flèche qui, elle, avait toute raison d'être sur place, typiquement néolithique, qui montre qu'on est certainement sur un terrain de chasse pour ces habitants du néolithique, à rapprocher des embarcations monoxyles qu'on avait retrouvées dans le lit de l'Erse, pas très loin de Saint-Alban.
Un peu en amont du côté de l'Union, je crois.
Voilà, c'est un petit peu en amont, donc ça confirmerait qu'on est sur des territoires de chasse de populations néolithiques.
Époque gallo-romaine aussi, il y a quelques vestiges ou objets qui ont été trouvés.
On peut rapprocher, on a les fameuses torques gauloises qu'on a retrouvées en creusant le canal, qui n'appartiennent pas à Saint-Alban, mais à la limite dans sur Fenouillé. On a retrouvé des dépôts d'amphores sur les gares de triage de Saint-Jory. On a retrouvé un sarcophage daté de l'époque mérovingienne sur la matière du Petit Paradis, porte bien son nom, qui se situe sur la commune de Bruyère, donc aux alentours. Donc ça montre qu'il y a eu, au moins, on est sur une zone de passage, de chasseurs et de passage permanent.
Voilà, ben donc on va revenir, plutôt on va se projeter maintenant au Moyen-Âge. Donc les premières archives, c'est 1080, donc, si j'ai bien compris.
1080. Voilà. Je fais référence à, je dois le citer, Pierre Gérard, qui était le directeur des archives départementales de la Haute-Garonne et qui a fait des études très poussées sur le Nord Toulousain, justement.
Alors après, donc, il y a la seigneurie, la famille du Puget, tout début du XVIIe. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé?
Donc cette sauveté dont on a dit qu'elle est éphémère a certainement disparu, bien que 70 ans après, on parle encore du pont de Matepézoul qui séparait Castelginès, le futur Castelginès de Saint-Alban. On note la présence d'une chapelle construite dans les années 1230-1232, mais qui appartient, on ne sait pas à qui pour l'instant. La renaissance du village va se situer, bon, probablement dans les années qui ont suivi la construction de cette chapelle, et en tout cas avant 1300, sous un nouveau nom, c'est Gaffelaz, étymologie, attention à l'âne. Oui. Ou attrape l'âne. Donc c'est ce nouveau village qui... Alors c'est étonnant parce que quand on regarde les plus anciens plans qu'on peut retrouver, même s'ils sont de l'époque post-révolutionnaire, mais le village n'avait pas beaucoup évolué, ce village se construit dans un triangle dont un des sommets possède encore les restes sans doute de ce qui a été une de ces croix qui a permis de créer la sauveté. Donc on peut se demander si le village n'est pas ressorti finalement, enfin renaît finalement sur les mêmes plans que la sauveté elle-même. Hypothèse invérifiable de toute façon. Donc le village va renaître à ce moment-là. Petit village, puisque même au moment de la Révolution, on nous parle de 30 feux, donc oui. 30 familles, maximum 150 habitants, donc ça demeure vraiment un petit village. Bon, c'est les seigneurs... Les barons du Puget de Saint-Alban, donc les 5-6 seigneurs qui vont se succéder de 1603 à 1789, semblent ne pas jouer un grand rôle direct sur Saint-Alban, puisqu'on les retrouve en fonction au capitoulat toulousain, voire l'un est secrétaire de Louis XIII, donc via Paris, et le dernier vivra à la cour des rois de France à Versailles, oui. Le dernier Emmanuel du Puget, dont on dit qu'il avait une femme d'une remarquable beauté, et qu'il a laissé à Versailles sa fortune.
Il pouvait être une favorite, on peut penser ça. On peut le supputer.
Je vous laisse. Non, c'est vous qui le dites.
C'est une possibilité. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnages illustres au Moyen-Âge qui ont pu marquer, au Moyen-Âge plutôt sous l'Ancien Régime, qui ont pu marquer l'histoire de ce territoire en dehors de cette famille du Puget?
Non, et d'ailleurs, c'était une gageure que de réécrire une histoire de Saint-Alban, sachant qu'on n'y trouve aucune personnalité marquante, aucun bâtiment remarquable, si ce n'est une des ailes du château construit par la famille du Puget dans les années 1615-1620, qui n'a rien non plus de remarquable, sinon les fameux souterrains dont on...
Oui, là aussi, on est dans la supputation. Il y aurait eu des souterrains, dont un qui menait peut-être au château de Castelginès.
Alors, c'est ce qui se dit, ce qui répète. Il existe, ce souterrain. Je peux confirmer que des jeunes que je connais bien sont descendus dedans. Ils ont fait quelques mètres, après il est complètement éboulé. De là, aller sortir à Castelginès, il me semble que c'est illusoire. Je pense qu'il allait plutôt à la ferme de Matte qui appartenait au seigneur, qui se trouvait à quelques 200 mètres de là, et où on avait construit cette chapelle, où le premier cimetière donc, de Gaffelaz sera également édifié. Donc, je pense qu'il allait sortir plus dans cette région-là. Dans les années 1600, il y a plus des troubles extrêmement importants en France qui justifierait qu'on creuse un tunnel de plusieurs kilomètres et qu'il y a eu sortir à Castelginet. Je ne vois pas l'utilité.
On arrive à la Révolution française, puis à la fin du XVIIIe. Est-ce qu'il y a des faits remarquables, ou en tout cas à citer à cette époque ?
Au niveau de la Révolution française, ben, on va voir des familles qui vont prendre la parole, comme partout. C'est-à-dire, on a des gens totalement anonymes jusque-là, qui vont commencer à jouer un rôle, puisque c'est là qu'on va élire les premiers maires, c'est là que les assemblées communales vont commencer à débattre, et notamment on voit quelques familles qui vont tout au long de la Révolution et après, et jusqu'à aujourd'hui ou quasiment aujourd'hui, jouer un rôle important. Il y a une famille Fleurien, par exemple, qui a toujours des descendants d'ailleurs sur la commune de Saint-Alban, qui va donner le premier maire à Saint-Alban, qui donnera le premier restituteur au XIXe siècle, en 1830. Donc il y a ainsi des familles, ou la famille Courrèges qui va racheter notamment le château et des terres du château, qui vont occuper des postes importants dans Saint-Alban et qui seront présents jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à une époque extrêmement récente. Et phénomène important par contre pour la Révolution, bien que la ville s'appelle Saint-Alban, on ne trouve nulle trace de la disparition de ce nom-là pendant l'époque révolutionnaire, alors que tous les saints avaient disparu, il fallait laïciser un petit peu les noms, et on ne trouve aucune disparition de ce nom-là. Alors est-ce que cette communauté de paysans continuait d'appeler le lieu Gaffelaz et non pas Saint-Alban ? Le nom leur est imposé par un seigneur qui était quand même relativement absent de Saint-Alban. C'est possible. On n'a pas de preuve. En tout cas, le nom, on n'a aucune preuve qu'il disparaisse.
Qu'il disparaît, oui.
Et quand on demande de faire disparaître tous les vestiges de l'ancien régime, on se défonce un petit peu. Il y en avait sur le château. On ne trouve pas les ouvriers pour aller les démolir, etc., etc. Donc, pour vivre heureux, vivant caché, je vais dire, il y a une sorte d'unanimité qui se fait. Donc, il ne faut pas trop se montrer et vivre tranquille dans son coin. Sachant quand même qu'ils vont subir des réquisitions pour l'armée, pour des tas de choses pendant cette révolution.
Alors après, Premier Empire, là, événement important dans notre région, la bataille de Toulouse. Nous sommes en 1814, avril 1814. Donc, les troupes du maréchal Soult sont face aux troupes anglo-hispano-portugaises. Et apparemment, à Saint-Alban, il a dû se passer des choses.
Ah oui, comme vient de dire par le duc de Wellington, c'est pas n'importe qui. Oui, oui, les armées anglo-portugo-hispano, les trois pays, arrivent sur Toulouse du côté de Saint-Cyprien, vont remonter la Garonne jusqu'au niveau de Merville pour traverser sur un pont de bateau donc légèrement en amont de Grenade, et vont déferler sur Toulouse, où aura lieu la bataille sur la butte de Calvinet, et vont donc déferler sur la vallée de l'Hers et vont traverser Saint-Alban le 9 avril 1814. Et le plus ancien souvenir qui m'a été rapporté est lié à cette bataille de Toulouse, où l'un des descendants d'une vieille famille saint-albanaise me racontait un jour qu'une de ses grand-tantes avait passé plusieurs jours cachée sous un tas de fagots. L'anecdote étant rapportée, je posais la question de savoir à quel événement historique cela pouvait se rapporter, et c'est une évidence que c'était au passage de cette armée portugo-hispano-anglaise, sachant que les femmes avaient tout à craindre de soldats
partant sur le champ de bataille. Comme avant et comme maintenant.
Ou au retour de ce champ de bataille, puisque dans une autre délibération, on raconte qu'une femme a rapporté tous ses atours chez un voisin pour les cacher, etc., de peur des Espagnols, entre guillemets, qui revenaient un petit peu en goguette dans le secteur après la bataille, après le 10 avril et la bataille de Toulouse.
Alors, le 19e siècle à Saint-Alban, je pense, est marqué par la culture de la violette, plutôt à la fin 19e, ça.
Vraiment tout à fait à la fin, oui.
Alors, c'est plutôt la rivalité entre Castelginès et Saint-Alban marque le 19e.
C'est une rivalité incestueuse qui existe entre les deux communautés. Saint-Alban va nommer un enseignant en 1830, va créer une école en 1830, et quatre ans après, comme par hasard, Castelginès va demander qu'on crée une école commune entre Castelginès et Saint-Alban, à Castelginès bien entendu. Ensuite, il y a une grosse rivalité, puisque l'église de la fameuse chapelle construite dans les années 1200 avait disparu bien avant la Révolution, et donc Saint-Alban dépendait de Castelginès pour tout ce qui était religieux, et donc pour tout ce qui était état civil, puisque c'était l'église qui était chargée de l'état civil à cette époque-là. Donc, les jeunes devaient aller à l'église à Castelginès. De là, sans doute, une rivalité quand les jeunes venaient, entre guillemets, chasser sur le territoire de Caségines pour trouver une jeune fille à épouser, de là des rivalités extrêmement marquées entre les jeunes des deux villages, c'est une certitude. Ensuite, après la Révolution, il fallait réparer l'église, donc payer ses réparations. Saint-Alban devait s'acquitter du tiers de ses réparations. Et communauté paysanne oblige, moins on dépense, mieux on se porte. Et si on pouvait éviter de délier les cordons de la bourse et de faire payer le voisin, on ne s'en cachait pas. Donc il y avait toute une série de rivalités. Ensuite, on va aller plus loin, c'est que dans les années 1850, on va avoir une délibération du conseil municipal de Caségines demandant purement et simplement le rattachement de Saint-Alban à la ville de Caségines. Donc la disparition pure et simple du village de Saint-Alban, ce qui d'ailleurs, en retour, va obliger Saint-Alban à prendre aussi une délibération pour voir comment ils pourront se doter d'une église, d'un cimetière, puisqu'on n'avait plus non plus de cimetière, et que, bon, 20 ans après, cette église sortira de terre, un cimetière également, donné par des personnes de Saint-Alban, d'ailleurs à l'époque, ils donnèrent leur terrain gratuitement pour que ces bâtiments puissent sortir de terre.
Alors donc, ce qui va marquer la fin du 19e et le début du 20e, c'est donc l'irruption de la culture de la violette sur le territoire de la commune de Saint-Alban.
Je l'ai dit, ce que nous a appris Fernand Brodel, c'est qu'au départ, Saint-Alban est une zone où on fait de l'élevage, où on fait de la production de céréales, de la vigne, donc de la polyculture pour servir le marché toulousain. Les surplus viennent servir le marché toulousain, puisque c'est d'abord vivrier. Mais progressivement, le maraîchage étant chassé de Toulouse même vers la périphérie, et le besoin de légumes se faisant de plus en plus important, on va voir donc sur la lande Aucamville-Saint-Alban se développer le maraîchage. Et la violette va prendre une place considérable, non pas à la fin du 19e, mais surtout après la Première Guerre mondiale et jusqu'aux années 1960-65, où là elle va décliner très rapidement et quasiment disparaître. Et c'était lié à une autre culture qui était celle de l'oignon.
Ah oui.
Dont on parle peu, mais ça a été une grosse zone de production d'oignons. Et je me souviens encore, gamin, avoir participé à la récolte de ces oignons. C'était des dizaines de tonnes par jardin qu'on recueillait. C'était extrêmement important.
La période de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation, est-ce qu'il se passe des choses particulières à Saint-Alban ?
Il y a eu une occupation de Saint-Alban par des officiers SS notamment, et serait-ce que dans une maison qui m'est chère, c'était celle de mes beaux-parents, il y avait laissé des traces puisqu'il avait l'habitude de rentrer, paraît-il, complètement ivre tous les soirs, ramené par deux soldats, et les rampes d'escalier n'y ont pas résisté. Donc c'était un souvenir qui est resté marquant dans cette maison-là.
Voilà, puis alors après, à partir de 1945, bon, on rentre dans les Trente Glorieuses, et comme dans beaucoup d'autres villes de la périphérie toulousaine, ou de France d'ailleurs en général, bon, il y a forte urbanisation et hausse de la population. On arrive à la situation d'aujourd'hui. Ça commence quand ? Dès après la Seconde Guerre mondiale ?
Alors, dès après la Seconde Guerre mondiale, Saint-Alban va subir un double flux de développement. C'est d'abord le maraîchage qui va se développer considérablement. Toulouse a besoin vraiment de beaucoup de légumes frais. La violette disparaît plus ou moins. Et c'est surtout ensuite bon, la salade, les haricots, le céleri, etc.
Pour alimenter la ville de Toulouse.
Le mine va venir sur Toulouse-Lalande, après avoir été sur la place Arnaud-Bernard, le marché aux légumes. Donc le mine vient, comme par hasard, sur le nord de Toulouse, et les maraîchers vont se développer. Et jusqu'aux années 60-70, Saint-Alban comptera au moins 60 ou 70 hectares pour le jardinage. Et en même temps, la gare de triage de Saint-Jory, qui est sortie de terre et qui va occuper jusqu'à 600 ouvriers à une certaine époque, va donc demander qu'on loge ces ouvriers. Et Saint-Alban va devenir une terre d'accueil, je vais dire, des cheminots. Et les premières cités SNCF sortent de terre dans les années 1948-1950. Et cette vocation ne se tarira pas. Et ce double développement qui, à terme, était contradictoire, ben on va voir l'arrivée de plus en plus d'habitants au détriment des jardins qui vont progressivement disparaître.
Voilà, aujourd'hui, c'est complètement urbanisé.
Je crois qu'aujourd'hui, il doit rester un seul maraîcher digne de ce nom sur Saint-Alban. Aujourd'hui, les 420 hectares sont urbanisés. Bon, il y a une grosse zone industrielle avec, qui occupe quand même pas mal de monde.
Oui, il y a un certain tissu économique et pas mal d'entreprises aussi sur le territoire.
Oui, c'est ça, il y a pas mal d'entreprises. Donc, dès les années 1970, on a créé cette zone industrielle qui est vraiment remplie aujourd'hui et qui génère pas mal d'emplois. Mais aujourd'hui, c'est une explosion démographique qui fait que
On arrive un peu aux limites, là, je pense, maintenant.
Tous les terrains disponibles sont à peu près construits. Reste une petite zone, mais il y a un gros projet urbanistique qui est dessus et donc qui devrait voir encore quelques dizaines, voire centaines d'appartements sortir de terre dans les années qui viennent.
Alors, il y a autre chose de très intéressant, très original à Saint-Alban, c'est l'école de l'Europe. Et vous n'y êtes pas pour rien s'il y a l'école de l'Europe à Saint-Alban. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'école de l'Europe ?
Un jour, un journaliste m'a téléphoné pour me demander où est-ce qu'il pouvait photographier l'école de l'Europe. Je lui ai expliqué que c'était une manifestation qui, tous les ans, permettait aux Saint-Albanais de bénéficier de la présence de personnalités européennes de premier plan qui venaient débattre sur des sujets les plus divers et variés, et généralement en liaison avec l'actualité européenne. Alors, d'ailleurs, aujourd'hui, ça s'appelle Vivre l'Europe. Ça a changé parce que école et Europe, c'était deux mots qui étaient plutôt repoussoirs qu'autre chose. Donc, vivre, c'est quand même plus dynamique. Donc, c'est le comité de jumelage qui était né en 1989 lors du jumelage avec la ville italienne de Salgareda. Donc, qui a créé cette manifestation, c'était mon prédécesseur à la présidence, Pierre Buissou, qui avait créé cela, pour porter un petit peu d'informations. Créer un jumelage, c'était aussi mettre en relation des villes d'Europe et pour participer, d'une certaine façon, à la construction, directement à la construction européenne, mais participer à quelque chose auquel les gens ne connaissaient rien, et dont l'idée, c'était d'amener des personnalités diverses et variées pour présenter un petit peu les problématiques liées à l'école de l'Europe. Ce qui a permis d'accueillir à Saint-Alban X ambassadeurs de pays européens, X personnalités diverses et variées venant de la Commission européenne, du Parlement européen.
Je crois que ça fait tache d'huile parce que cet événement est reproduit dans d'autres villes.
Toutes ces personnalités disaient « mais ce que vous faites est fabuleux, ça serait bien de le généraliser, de le populariser ». Et donc, on a travaillé pendant très longtemps, voir comment on pouvait faire cela. Et un jour, l'idée a germé et on a créé un réseau européen de villes jumelées. Et aujourd'hui, ce réseau que Saint-Alban a animé pendant très longtemps rassemble des villes portugaises, espagnoles, roumaines, italiennes, polonaises et donc françaises.
Voilà, puis comme je ne vous l'ai pas dit, parce que vous êtes modeste, bon, vous êtes à l'origine de tout ça et ça vous a valu la médaille de la citoyenneté européenne, si je ne me trompe.
Ce n'est pas une médaille, c'est un prix.
C'est
un prix qui est décerné d'une élection qui a lieu tous les ans au Parlement européen sur proposition d'un député européen. Donc il y a tous les ans une quarantaine de personnalités de toute l'Europe qui obtiennent ce prix, dont au maximum 4 Français. Bon, je l'ai reçu au nom de tous ceux qui ont travaillé dans ce projet, hein, car on n'est jamais seul dans un tel projet.
Mais c'est tout de même une très très belle récompense. Et bien voilà, je ne sais pas si nous aurons fait un tour détaillé de l'histoire de Saint-Alban, mais je pense que nous en aurons exploré les grandes lignes, découvert les aspects et événements principaux. Tout ça grâce à votre érudition et votre travail d'historien Serge Laborderie. Grand merci à vous d'avoir participé à cette émission que nous devons maintenant conclure. Je rappelle le titre de votre livre, Histoire de Saint-Alban 1789-1989. Je crois qu'on peut peut-être se le procurer en contactant la mairie de Saint-Alban. Pour notre prochaine émission, nous irons à la découverte de l'histoire et du patrimoine d'une autre commune de Toulouse Métropole. Et nous allons retourner à l'est de l'espace métropolitain pour cela, puisqu'il s'agira de Quinfonce-Grive. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.